Chapitre 2. Zénon et le vieux Mordicaï se dirigèrent ensuite vers la seigneurie de Dobrovlani, dont le maître donnait depuis longtemps à l'aspirant réformateur des sujets d'indignation. D'abord, il se joignit aux travailleurs des champs et se borna tranquillement à observer tout en faisant sa besogne. La vieille Patrovna, qui comptait parmi les paysans du baron et dont la chaumière était située à l'écart des autres, tout au fond de la forêt, l'avait reçue chez elle. Ils vivaient ainsi sous le même toit qu'Assaria, laquelle était venue chez sa grand-mère dans l'espoir d'échapper aux humiliations et aux railleries qui la poursuivaient chez elle, car sans avoir jamais été mariée, Assaria était enceinte. Si elle eût porté dans son sein l'enfant d'un paysan, personne ne lui eût jeté la pierre. Mais le peuple des campagnes en Galicie, au temps du robot, n'était nullement disposé à excuser celle de ses filles qui écoutaient un gentilhomme. Les paysans de Dobrovlani surent vite que la petite fille de Patrovna avait reçu de Pan Joachim Bolchenski, le neveu libertin du riche comte Dolskonski, plusieurs rangs de corail et une pelisse neuve en peau d'agneau pour prix de son déshonneur. Des murmures, ils passèrent aux menaces, et leur colère éclata enfin un samedi soir, comme ils revenaient du robot. Zénon, le couvre-feu sonné, rencontra dans la rue du village une centaine d'hommes qui conduisaient au milieu d'eux Assaria, éplorée, vêtue seulement d'une chemise, les pieds nus, une couronne de paille sur ses cheveux dénoués. Rouge de honte, le visage caché dans ses mains, la pénitente marchait sous les huées de la foule, tandis que, sourds aux supplications de sa grand-mère, les enfants lui jetaient de la boue et les femmes la poussaient en avant à coups de bâton, et les hommes, cependant, chantaient des couplets satiriques plus injurieux que tout le reste. La voix de Zénon arrêta le cortège. « Que faites-vous ? » criait cette voix claire et vibrante qui domina soudain tout le tumulte. De même éclate une trompette au-dessus des bruits de la bataille. « Le peuple va juger !» crièrent 20 hommes ensemble. « Juger qui ?» La vieille Patrovna se fit place jusqu'à lui et répondit. « Une pauvre fille séduite !» « Protège-nous, Pascal, Dieu t'envoie. »« Allô, la sorcière !» hurlèrent quelques enragés. Et deux jeunes garçons saisirent la malheureuse aïeule. Mordicaï Pachen, qui s'était tenu derrière les larges épaules de Zénon, fut si effrayé qu'il grimpa au faîte de l'arbre le plus proche avec la vitesse d'un écureuil. « Assez !» dit Zénon. On ne noiera personne et il n'y aura pas de jugement. Homme, fit un vieillard, qui es-tu pour t'opposer à la commune? Et qui êtes-vous, répliqua Zénon, pour oser juger cette faible créature? Êtes-vous des anges, des saints? Aucun de vous n'a-t-il violé les devoirs sacrés du mariage? Bien des femmes, peut-être, parmi celles qui sont ici, à insulter leur sœur tombée, ne résisterait pas à quelques rangs de corail, le cas échéant. Un homme de grande taille, le bonnet militaire sur la tête, se jeta sur Zénon, mais au moment même un vieillard à barbe blanche vint au secours de celui-ci. C'était le mendiant qu'il avait arraché aux jolies griffes de Pani Witolowska. De son côté, Mordicaï criait à tue-tête du haut de son arbre. « au secours, ne me touchez pas !» Zénon avait abattu son adversaire d'un coup de poing. Le bâton à la main, il tenait la foule en respect, couvrant Assaria de son corps. Tout à coup, il arracha la couronne de paille qui cachait les cheveux de la coupable et la jetant aux pieds des juges. « Que celui d'entre vous qui se croit le droit de condamner cette femme avance d'un pas je tuerai comme un blasphémateur. Le Christ n'est pas mort pour les bons, mais pour les pécheurs. Et quiconque est sorti du sein de la femme est un pécheur. Rentrez en vous-même, humiliez-vous. Ne tentez pas Dieu, qui a défendu la haine et prescrit la charité. » Ces paroles retentirent au milieu d'un profond silence. Puis plusieurs voix s'élevèrent. « Ben, c'est la vérité. » « Retirez-vous, dit un vieillard. La sagesse est dans la bouche de ce jeune homme. Le ciel l'a suscité parmi nous. Dieu laisse briller son soleil sur le juste et sur l'injuste, criait le juif du haut de son arbre. Soyez pas plus sévère que Dieu, plus impitoyable que le soleil. » Une voiture qui passait divisa la foule et le docteur Lenôtre, ayant reconnu Zénon, fit arrêter. On lui exposa le cas. « Vous méritez, dit-il au tourmenteur d'Azaria, que la peste vous enlève tous. Voyez ce jeune étranger, il vaut mieux à lui tout seul que 100 000 d'entre vous. Quiconque s'attaquera à lui ou à la fille que voici aura affaire à moi. » Le médecin français avait une grande influence sur ces gens qu'il soignait dans leur maladie. Tandis que sa voiture disparaissait dans un nuage de poussière, la multitude commença lentement à se disperser. « Si vous voulez juger quelqu'un, jugez donc le séducteur !» dit d'un ton ironique au plus obstiné le juif Mordecai, qui s'était décidé à redescendre de l'arbre. « Mais c'est un seigneur, non pas de pouvoir sur lui, répondit-on. « Parce que vous êtes des lâches, s'écria Azaria. Oui, des lâches, capables seulement de maltraiter une pauvre fille abandonnée. Tant pis pour vous. Pourquoi ne pas vous révolter contre le maître qui a enlevé un Nazarétien en son Alexa et enrôlé le fiancé de force? Pourquoi, dites ? » Personne ne souffle un mot, mais Zénon prenant Azaria par la main. « Viens, dit-il, je te reconduirai chez toi, et tu me diras tout ce qui concerne ce Nazarétien et cet Alexa. » Elle obéit. C'était une triste histoire. La nuit même, le baron Orlovski, maître de Dobrovlani, fut éveillé par une voix formidable qui criait à ses oreilles « Lève-toi, tyran !» L'heure du jugement est venue pour toi. » Et il aperçut Zénon au pied de son lit, une faux à la main. Les rouges lueurs de la lampe de nuit vacillaient, semblables à des taches de sang sur le fer aiguisé. À peine sorti de son sommeil, il crut voir le grand faucheur qui fauche les rois comme de simples épis. « Les morts sont-ils ressuscités ? » s'écria-t-il, plein d'épouvante. Non, répondit Zénon, mais les vivants réclament leurs droits. Mordecai, debout derrière son jeune maître, claquait des dents, à demi-fou de peur, car le baron avait saisi les pistolets accrochés à son chevet. Pas de bruit, dit Zénon, si tu bouges, tu es mort. « Que voulez-vous de moi? Ai-je affaire à des aïdamaques? Est-ce ma bourse que vous demandez ?» Zénon secoua la tête. « Où est Alexa ?» D'un geste un peu tremblant, le baron indiqua une porte, et aussitôt Zénon fit signe au juif, qui sortit en toute hâte. « Maintenant, dit-il à Orlovski, lève-toi. » Orlovski s'habilla docilement car Zénon avait mis la main sur ses pistolets. Après quoi, il embrassa la chambre d'un regard rapide. Aucune autre arme n'y était suspendue. Mordecai revint avec Alexa, qui avait jeté en toute hâte sur sa robe de nuit une casabaïka de soie bleue garnie d'hermine. Sous ce vêtement de princesse, la paysanne aux bras blancs, aux tempes délicates, finement veinées, au cou arrondi que marquait si joliment un petit signe noir, aux beaux yeux verts de mer comme ceux d'une nymphe des eaux, la petite paysanne, disons-nous, était charmante. Mais en ce moment, elle ne se souciait pas de charmer. La confusion l'accablait, elle pâlit, rougit, puis sans savoir ce qu'elle faisait, se réfugia dans un coin où elle se rejeta machinalement ses cheveux blonds sur une de ses épaules pour se mettre ensuite à les tresser. « Alexa, » dit Zénon avec une gravité douce, « comment es-tu venu ici ?» La pauvrette n'osait répondre. Elle regardait le baron qui regardait le plancher, une main posée à plat sur son crâne chauve. « Dis la vérité, tu n'as rien à craindre. » « A-t-il usé de violence ?» Alexa fit un signe affirmatif et tourna son visage du côté du mur. « Comment répondras-tu de cet acte devant Dieu ?» demanda Zénon, s'adressant au ravisseur. « Voici ce que je t'ordonne en son nom. Tu rendras sur le champ la liberté à cette fille, et tu lui donneras 200 ducats, afin qu'elle puisse racheter son amant du service. Entends-tu ? Plus une dot !» Orlovski marche à droite à son secrétaire et jeta sur la table plusieurs rouleaux d'or que Mordecai compta très attentivement. « Suis-nous, et n'essaie pas de crier pour réveiller tes gens, » ajouta Zénon, en approchant les pistolets de son oreille. Ils descendirent tous les quatre dans le jardin, dont les allées bordées de buis n'étaient que faiblement éclairées par la lune. « Y a-t-il des bêches ?» demanda Zénon. « Pourquoi faire ?» murmura le baron, que paralysait de rechef une vague terreur. Alexa courut chercher 2 bêches. « Creusez une fosse, » dit Zénon, « une fosse assez profonde pour qu'un homme y tienne debout. » Alexa et le juif se mirent à l'œuvre, tandis qu'Orlovski, tenu au collet par Zénon, se laissait tomber sur un banc. Lorsque la fosse fut assez profonde, l'implacable vengeur commanda au baron d'y descendre. « Encore une fois, que voulez-vous faire ?» bégayait le misérable dont les jambes fléchirent. « Faut-il t'attacher ?»« Non, 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 non !» Zénon le renversa, et le tenant sous lui, passa des cordes à Alexa pour lier les mains et les pieds d'Orlovski, que l'on jeta ensuite dans la fosse. Mordecai et la jeune fille procédèrent sans retard à la remplir. « Juste Dieu !» cria le baron. « Me voulez-vous enterrer vivant ?»« Jusqu'au cou seulement, » repartit Zénon, « et ensuite on te fauchera la tête. Commence donc ta prière, il est temps. » Orlovski invoquait bruyamment la Sainte Vierge. « Plus bas !» dit Zénon. « Et maintenant, as-tu fini ?» Déjà, les pelletées de terre lui volaient en plein visage. « Un instant de grâce, j'ai tant de fautes sur la conscience, il y a si longtemps que je l'ai prié. » Zénon se mit à rire. « Oh, si tu implores Alexa, elle t'accordera peut-être la vie. »« Alexa !» soupillait le baron, « aie pitié de moi, montre-toi généreuse. » « Tu me vois à tes pieds, repentant. »« J'aimerais mieux, » dit la paysanne, « voir à mes pieds ta tête toute seule. »« Cependant, » ajouta-t-elle avec un soupir, « la religion nous enseigne à pardonner. »« Elle te fait grâce, » dit Zénon. « Que l'angoisse que tu as éprouvée soit ta punition. Et maintenant, écoute. Si tu entreprends la moindre représaille contre elle, ou contre son amant, ou contre moi-même, ou contre Mordecai Pershen, interrompit vivement le juif, tu périras, je te le jure, acheva Zénon. Avec une dernière menace de la main, il s'éloigna, suivi d'Alexa et du juif, tandis qu'Orlovski, après avoir gardé le silence quelques minutes encore, par crainte de le voir revenir, éclatait en clameurs désespérées qui finirent par attirer ses gens. On le délivra, on le porta dans son lit tout grelottant de fièvre. Le docteur Lenôtre fut appelé. Cette fois, il joua le rôle d'un confesseur plutôt que d'un médecin. « Une agitation étrange règne parmi les paysans, » dit-il au baron avec son franc-parler ordinaire. « Nous sommes évidemment à la veille d'une grande crise sociale. Restez bien tranquille, je vous y engage. Vous puniriez peut-être sans trop de peine l'un ou l'autre de vos agresseurs, mais la vengeance ne se ferait pas attendre. » La moisson venait de commencer quand Zénon, arrivant à Tchernogorod, se joignit aux faucheurs du comte d'Akolski, propriétaire d'un vieux château magnifique et de 14 villages sur les deux rives du Dniester. Dans le champ qu'il fauchait, passa bientôt une jeune fille élancée, vêtue de blanc, un chapeau de paille posé sur ses tresses châtains. À trois pas de lui, elle s'arrêta et regarda tomber les épis. Tout à coup, Zénon tourna la tête, et les yeux de la jeune fille rencontrèrent les siens. Un trouble singulier les saisit l'un et l'autre. Il oublia de saluer et elle de s'éloigner. Ses deux cœurs avaient tressailli en même temps. Le rouge de la pudeur aux joues, l'inconnu se baissa en feignant de cueillir des bluets. Dans le lointain ensoleillé, on entendait chanter une caille. Une seconde caille répondit. L'apparition qui avait ébloui Zénon s'éloigna majestueuse et lente. Il vit longtemps flotter ses tresses brunes sur sa robe blanche. « C'est notre jeune comtesse !» dit un vieux paysan. « Quoi, la femme du comte ?» demanda Zénon avec une vivacité et un sentiment de crainte dont il fut effrayé lui-même. « Non, non, c'est sa fille !» Oh, cette réponse fut douce à son oreille comme de la musique. La promeneuse, de son côté, pensait à ce faucheur de haute taille, d'une physionomie à la fois intrépide et mélancolique. Rentrée au château, elle pensa encore à lui. Elle le revoyait dans le livre qu'elle lisait à travers les fleurs qu'elle brodait, les hommages de son cousin Pan Joachim Boschensk lui devenaient insupportables. Mais que me rappelle donc cette figure ? Se demandait-elle. Une sorte de souvenir vague et persistant la tourmentait. Tout à coup, elle se rappela que, sous les mêmes traits, elle s'était, dans ses prières, représentée Jésus. La nuit, elle s'éveilla en pleurant. C'était peut-être à l'heure où Zénon, assis sur un banc dans le jardin, prêtait l'oreille au bruit des fontaines et au chant du rossignol, les yeux attachés sur la fenêtre de la comtesse Marie. Le lendemain, elle retourna dans les blés. Cette fois, Zénon osa la saluer, même lui offrir un bouquet de fleurs des champs qu'elle entremêla aux tresses de sa chevelure. « Quel est ton nom ?» lui demanda-t-elle d'un air de dignité paisible. « Par Charles, et le vôtre, ma gracieuse demoiselle ?» Les grands yeux clairs de la jeune comtesse, ils étaient d'un gris indéfinissable et pur comme le cristal, s'arrêtèrent sur lui avec un certain étonnement. « Marie Casimir, » répondit-elle. « Ah oui, c'est le nom d'une reine de Pologne !» « Ah, tu sais cela, et d'où es-tu donc ?»« D'Ostrovitz. »« Y a-t-il à Ostrovitz des gentilshommes parmi les paysans ?»« Non, point que je sache. »« C'est qu'il y a des paysans nobles, » fit-elle observer d'un ton décidé. « Tu dois en être issu. » Le même jour, la comtesse d'Odkonska, tout en jouant avec son petit chien, dit à Pan Joachim Tu dis pas mal, mon neveu, pour conquérir ta cousine. Fais-lui la cour. » Le jeune homme tordit ses favoris noirs. « C'est pas facile, chère tante. J'ai presque peur de mon mari Casimir. Cet enfant de 16 ans est une énigme, si froide, et parlant si peu. Comment entamer la conversation ? Hier, je lui fais compliment de sa toilette. Elle me met dans la main un volume de Humboldt. Quand elle sera ma femme, elle m'imposera de lire toute la bibliothèque, je gage. » Il descendit dans la cour, siffla un homme qui se trouvait là comme on siffle un chien, et prit avec cet homme le chemin de la cabane de Patrovna. « Ah, tu vas rendre visite à ton Azaria, » dit en riant le compagnon de Pan Joachim, un petit être chétif à la mine cynique. « Point de plaisanterie, Poppy, » répliqua Pan Joachim, redressa son bâton taille. Oh, il avait bien 6 pieds, ce qui, joint aux lignes régulières de son profil grec, lui donnait l'air imposant. « Réfléchis donc à ce que tu es pour oser ricaner ainsi. Un plébéien, d'abord, un étudiant qui n'est jamais arrivé à la fin de ses études, un vil paresseux que je suis seul à protéger. » Mon Dieu, je pensais que tu n'as rien à penser sur mon compte. J'ai bien autre chose en tête, ma foi, que cette drôlesse. Je prétends payer mes dettes. Popiel, intrigué, le regarda entre ses paupières rouges et gonflées. Tu as peut-être entendu dire qu'un roi de Hongrie, poursuivi par l'ennemi, s'est un jour réfugié en Pologne et qu'il habitait ce château ? Dans le voisinage, il a dû enterrer ses trésors. La vieille Patrovna le sait. Oh, je les découvrirai avec son aide. Des comptes à dormir debout, murmura Popiel en passant dans ses cheveux fades et clairsemés un peigne qui n'avait plus que 2 dents. Tais-toi, la sorcière a trouvé par là une agrafe antique qui est aujourd'hui aux mains des Juifs, et plus d'une fois, elle a vu luire le trésor dans les ténèbres. Vers minuit, Pan Joachim et son familier Popiel, armés de bêches, se glissèrent de nouveau hors du château. Sur la route qui conduisait à la forêt, les attendait Patrovna. « Où est-ce ? » demanda le gentilhomme. « À 100 pas d'ici, près du sureau. » Ils avancèrent silencieusement. Tout à coup, Pan Joachim s'arrêta court avec un signe de croix. « Vois-tu ? » murmura-t-il. En effet, sur la lisière de la forêt brillait une étrange clarté. Le vent roulait des nuages noirs et le cri funèbre du hibou se faisait entendre. « Voici l'endroit !» murmura Patrovna en traçant un cercle magique à l'aide de son bâton. « Allons, vieille !» lui dit Pan Joachim, « c'est le moment de nous recommander au diable. J'espère que tu es bien avec lui !» Patrovna alluma au milieu du cercle un petit feu. Il jeta par 3 fois diverses herbes magiques, y versa par 3 fois encore le liquide inconnu que renfermait une cruche de terre, puis prononça des invocations mystérieuses dans une langue que ne comprit aucun de ses compagnons. Enfin, d'une voix qui semblait sortir des entrailles de la terre, « Il est temps, dit-elle, de commencer à creuser !» Pan Joachim et Popiel dénoncèrent à grand-peine la terre desséchée. Au bout d'un quart d'heure, la sueur ruisselait de leur front. Popiel s'arrêta. « Oh, n'en puis plus, la force me manque !» Pour le réconforter, son patron lui allongea un coup de pied. « Hé, tais-toi et travaille !» Ils continuèrent à creuser. Enfin, Joachim lui-même se fatigua. Oh, « Le diable joue son jeu, grommela-t-il, je me sens comme paralysé. » Dans le fourré se dressa soudain une haute figure éclairée par la lune. « Qui est là ?» demanda Popiel tout tremblant. C'était Zénon qui avait passé la nuit à rêver sous les grands chênes. Que faites-vous ? Demanda-t-il à son tour, sans répondre. Ne te forme pas, aide-nous plutôt, s'écria Panjoachin. Non, si je puis vous rendre service, je le ferai avec plaisir, répondit Zénon. Aide-nous, mon Pachal, dit la vieille en le caressant, et tu auras ta part. Je n'ai pas besoin d'argent, répondit Zénon en prenant une des bêches. Les mottes volaient autour de lui. Bientôt il fut dans le trou jusqu'aux épaules. Les deux autres l'aidaient alternativement. L'Orient se teignit enfin de rose et les oiseaux commencèrent à gazouiller. « Assez !» dit pas Joachim, « la vieille s'est moquée de nous. » Il voulut payer la peine de Zénon, mais celui-ci se mit à rire et s'en alla. « Eh bien !» dit Popiel à son noble compagnon, « et tes dettes ?» Pour toute réponse, Panjoachin lui donna un éloquent soufflet. Le lendemain encore, Marie Casimir rendit visite au faucheur. Il était midi. Le ciel pur étincelait, le soleil dardait ses rayons brûlants sur toute la campagne, où nulle part on ne voyait d'ombre. Zénon courut couper quelques arbustes dans la forêt voisine, et en forma pour la jeune comtesse un frais berceau de verdure. Elle le remercia en rougissant et s'assit sur une gerbe. « Est-ce qu'un si dur travail, demanda-t-elle après un silence, ne te coûte pas un peu parfois ?»« Non, je me trouve bien de travailler. »« Tu es donc heureux ?»« Je le suis maintenant, » reprit avec un regard qui la rendit toute confuse. « Et vous, reprit-il, n'êtes-vous pas heureuse ?»« Oh, répondit Marie Casimir, on ne se soucie que trop de mon bonheur. Ma mère pousse le zèle jusqu'à m'avoir déjà assuré un mari. » Zénon tressaillit douloureusement. « J'espère, mademoiselle, que vous n'épouserez jamais un homme sans l'aimer. » Oh, assurément non, répliqua Marie en fixant sur lui ses yeux limpides. Marie Casimir se leva, prit une faucille et se mit à couper du blé auprès de Zénon. « Tu vois, » dit-elle avec un sourire, tandis qu'il contemplait ravi les lignes sveltes de sa taille élégante auxquelles le mouvement de la faucille ajoutait de nouvelles séductions. « Tu vois, j'en viens à bout, moi aussi. » Une gouvernante parut, tout en âge et courroucée. Après quelques réprimandes, elle emmena son élève, et depuis lors, Marie Casimir ne vint plus dans les blés. Pour la revoir, il fallait que Zénon fermât les yeux durant les nuits qu'il passait à rêver, assis sur la lisière des bois. Ce fut dans cette attitude que le retrouva Mordicaille, qui avait passé tout le temps de la moisson à parcourir les environs en achetant aux paysans des peaux de bêtes et du blé. Le vieux juif secoua la tête et prit place à ses côtés sans souffler mot. La brise glissait doucement au-dessus des hautes branches. Un bruit d'ailes, un frisson dans le feuillage avertissait les deux amis qu'un oiseau s'était effarouché, qu'un chevreuil endormi avait dressé l'oreille. Mille vers luisants brillaient sous les buissons humides. « Qu'avez-vous ? » demanda enfin le vieux factor. « As-tu vu la jeune comtesse ? » répondit Zénon en ouvrant les yeux. « Elle est belle comme un ange !» Mordicaille ouvrit les yeux à son tour, mais se vit de surprise. « Savez-vous, dit-il, ce que nous lisons dans le Talmud ? Ne tiens pas compte du luxe de la cruche, mais vois s'il y a dedans du bon vin ou de l'eau claire. » Zénon approuva de la tête. Aussi ai-je regardé au plus profond de son âme. Ce n'est pas une femme, c'est une étoile ravie au ciel, te dis-je. Mordicaille prit sa tête à deux mains. J'ai peur, commença-t-il. Au même instant, un doigt osseux vint frapper son épaule, Et une voix enjouée lui dit à l'oreille, « N'aie pas peur, si je donne un filtre à Pascal, elle l'aimera. » Petrovna était debout derrière les deux hommes, éclairée en plein par la lune. « Merci, lui disait Non avec un sourire, merci de ton filtre, j'en connais un meilleur. » Lorsque, le dimanche suivant, Marie-Casimir sortit de l'église après la grand-messe, Zénon puisa de l'eau bénite dans le creux de sa main et la lui présenta. Elle y trempa ses doigts qui doucement l'effleurèrent. « J'espère au moins que ce garçon a les mains propres, » dit Pan Joachim d'un ton moqueur. « Ma main est plus propre en tout cas que votre conscience, » repartit Zénon. « Insolent ! » cria Joachim. « Pas un mot de plus, » ordonna la comtesse d'Obloska. « Nous comptons sur nos paysans et nous devons aspirer à gagner leur attachement au lieu de les blesser. » Joachim grinça des dents. « Bon, parce qu'on redoute la révolution, faut-il... » La crainte de mécontenter sa tante et de compromettre ainsi le mariage projeté entre lui et Marie-Casimir l'arrêta. Lorsque la courte obscurité du soir eut fait place à un beau clair de lune et que tout le monde fut endormi au château, la jeune comtesse sortit furtivement, accompagnée de sa femme de chambre, pour s'en aller frapper à la porte de la vieille Petrovna. Sans hésitation, elle pénétra dans la chaumière basse et sombre. « S'il est vrai, dit-elle à la sorcière, que tu saches lire dans l'avenir, je veux que tu me prédises le mien. » Petrovna la fit asseoir sur le banc près du poêle, puis s'accroupit elle-même en grand branlant la tête et se mit à étaler des cartes grasses, presque noires, sur le sol. « Je vous vois, dit-elle enfin, entre deux hommes. À l'un, vous devez donner votre main, vous aimez l'autre. Faut-il vous dire ce que je vois encore ?»« Dis tout !» fit Marie-Casimir. « Eh bien, vous trouverez le bonheur auprès de l'homme que vous aimez et qui vous enlèvera. » La jeune comtesse avait tressailli. « Puisque tu vois tout, dit-elle, tu peux m'apprendre aussi, bonne vieille, si cet homme est de noble origine, s'il est riche ou s'il est pauvre. » La sorcière sourit. « Il n'est pas, murmura-t-elle, ce qu'il paraît être, il ne possède pas encore ce qui un jour doit lui appartenir. » Marie-Casimir posa une main sur son cœur. « Je ne sais ce que j'éprouve depuis quelque temps, dit-elle à mi-voix, je me sens toute troublée. « Dieu connaît cela, fit Petrovna, et se levant, elle allait chercher un liquide de mauvaise mine. « Allez, 7 gouttes seulement et vous serez bien. »« Donne, » dit la courageuse fille. Elle but sans réfléchir davantage, mit un ducat sur le banc et s'éloigna vite comme elle était venue. Le lendemain matin, la comtesse d'Olkonska, ayant demandé à sa fille si Joachim lui plaisait, « Oh, ne vous inquiétez pas de lui, chère maman, » répondit Marie avec une tranquille fermeté. « Je ne serai jamais sa femme. » Et Pan Joachim prit assez gaiement son parti de cet arrêt, car le jour même il se grisa en compagnie de Popiel et se livra ensuite à ces plaisanteries polonaises qui, selon le proverbe, finissent avec le médecin, le curé et le fossoyeur. Par exemple, il fit monter sur un arbre un pauvre petit juif et lui enjoignit de crier « Coucou !» pour avoir le prétexte de tirer sur ce misérable comme sur un simple chauve-hasley. Si Zénon ne fut passé par là, le coup partait et l'ivrogne devenait sans le moindre remords un meurtrier. Hardiment, le défenseur de l'innocence arracha le fusil au jeune gentilhomme et déchargea l'arme en disant « Aux enfants et aux gens pris de vin, ne donnez jamais un fusil. Moi, pris de vin, s'écria Paul Joachim, écumant de rage. « Tu oses me dire à moi que je suis ivre ?»« Vous l'êtes ?» répliqua Zénon. « Chien !» hurla le Polonais en reprenant le fusil que Zénon avait jeté dans l'herbe pour le frapper d'un coup de crosse sur la tête. Mais aussitôt, il se sentit étreint par le poignet d'un géant. « Tiens !» lui dit Zénon en le renversant. « Reçois la récompense de ta conduite envers Azaria. Reste là, dans la fange, c'est ta place. » Bien entendu, Paul Joachim se releva pour aller demander vengeance à son oncle, le comte d'Olkonski. Mais la scène avait eu des témoins qui déposèrent contre le Polonais. Grand fut l'ennui du comte, qui redoutait par-dessus tout les agitations, de quelque genre qu'elles fussent. C'était un petit homme maigre, à figure d'oiseau, avec un énorme toupet, le visage entièrement rasé, le teint couleur de cuir, et toujours vêtu à la dernière mode française. « Mon Dieu !» ne cessait-il de répéter. « Qu'on m'épargne tout ce bruit !» Néanmoins, il fit sommer Zénon de comparaître. La comtesse d'Olkonska et Marie-Margrin Rizimir étaient dans le salon quand l'accusé se présenta. Tournant son lorgnon vers lui, « Mais que me parlait-on d'un paysan ?» dit le comte en français. « Nous avons affaire ici à quelques fils de roi. Mon neveu acceptera, je crois, tes excuses, » dit la comtesse, désarmée comme son mari. « Allô, Paschal, demande-lui pardon. »« Pardon, » répondit le jeune homme, respectueusement, mais avec assurance. « Lui demander pardon, et de quoi ? De ce qu'il s'est enivré ? De ce qu'il a voulu fusiller un juif, ou de ce que, tout en aspirant la main d'une noble demoiselle, il séduisait la pauvre Azaria ?»« Tu as fait cela ?» dit la comtesse, foudroyant du regard Panjoachin. Elle enjoignit à sa fille de s'éloigner. « Oh, surtout pas de scène !» supplia le comte. L'interrogatoire ne fut pas long. Paul Joachim se défendit fort mal. Le soir même, il prenait congé et se retournait à Lemberg.